décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 8, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, qu'a-t-on au sommaire de cette petite revue de presse ?
Oui, bah oui, hein, c'est les vacances, donc nécessairement, on est un peu faible. On n'a que 4 articles qui parlent de logiciels libres ou des sujets qui nous intéressent en général.
Mais ils sont sympas. Alors, Génération NT, la FSF envoie à Microsoft un disque dur pour libérer Windows 7 par Jérôme G.
Alors, c'est un vrai troll ce truc, parce qu'en gros, une association donc, de logiciels libres envoie au plus gros fabricant de logiciels privateurs un disque dur pour leur proposer de mettre dessus leur système d'exploitation.
C'est la énième semaine hein, qu'on parle de ce sujet-là.
Ouais, mais le disque dur, ça reste drôle. Hein.
Ça me fait rire à chaque fois.
Hein. Et bah voilà, Microsoft a quand même dit qu'ils étaient les champions de l'open source et qu'ils étaient à donf, donc c'est rigolo de profiter de cette déclaration.
Quitte à pas mal dire Windows 7, autant l'ouvrir, c'est logique. Tribune de Genève. Informatique, l'être humain va devoir s'interroger sur son rapport au monde numérique, par Olivier Weirwald.
Alors, c'est toute une discussion sur l'Europe et la gestion de son informatique, notamment en lien avec CryptoAG, un scandale qui vient d'apparaître sur une entreprise suisse qui fait de la sécurité, dont on s'aperçoit finalement qu'elle appartient à la CIA. En ce
moment. Qui faisait de la sécurité, donc.
Alors, non, je crois que ça, c'est encore le cas. Ça reste compliqué, mais de toute façon, les technologies évoluent et elle n'était plus forcément au cœur de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc là, l'Europe s'interroge sur comment on fait pour être indépendant au niveau de son informatique, comment on fait pour avoir nos propres champions. Et en plus, là, on l'a appris aujourd'hui, on est lundi début de semaine. La Commission européenne vient de recommander à tous ses employés d'utiliser Signal, une plateforme libre, un logiciel libre, chiffré de bout en bout, voilà, avec un code que l'on peut vérifier, auditer. Donc c'est plutôt positif.
Alors Signal, ça remplace l'envoi de SMS.
Notamment, mais
donc,
aussi des applications comme WhatsApp.
Chiffrés, voilà. Ça permet aussi de discuter à plusieurs, donc de créer un groupe de discussion toujours avec des échanges chiffrés, des échanges clés GPG. Donc c'est vraiment sympa comme petit logiciel.
Ça ne doit pas être GPG, mais l'équivalent. Hein. C'est un truc un peu novateur, il me semble.
ZDNet France, voici les principaux composants des logiciels open source et leurs problèmes, par Steven J. Vaughan Nichols.
Alors c'est la Linux Foundation qui fait toute une analyse et qui remonte une problématique qu'on a déjà rencontrée, c'est que les logiciels libres dépendent de logiciels libres qui dépendent de logiciels libres. C'est un peu l'optique, hein, c'est un peu cette idée de solidarité et de mise en commun de beaucoup de briques. Eh bien, cette mise en commun, des fois, elle pose des problèmes. C'est déjà arrivé dans le passé. Une petite librairie qui s'appelait Leftpad, qui a été abandonnée par son développeur, et eh bien, tout un écosystème JavaScript s'est effondré ce jour-là. Donc, ça a été facile de le remettre en place, mais quand même, ça a choqué du monde. Et donc, il y a plein de logiciels comme ça, JavaScript, mais pas que, qui sont très utilisés dans la communauté, qui sont un petit peu des pierres angulaires qu'il faut faire attention à bien maintenir et s'assurer qu'ils soient toujours là. Donc sinon, ça peut poser des problèmes.
3D native, Thingiverse, des fichiers 3D gratuits pour l'impression 3D par Mélanie R.
Alors Thingiverse, mais c'est toi qui connais le plus, Luc.
De très loin, parce que je ne m'en suis jamais vraiment servi. C'est un site sur lequel des tas de gens peuvent déposer des modèles 3D pour l'impression 3D.
Donc là, ça parle des plans qui sont partagés et qui sont tous, pour l'essentiel, en libre. Ce qui peut poser des problèmes parce qu'il y a de tout
pas
et n'importe quoi.
Pas spécialement en libre, il y a de tout. Hein.
Alors, le sujet de la semaine ?
La semaine dernière, on a rappelé que cette affaire montrait l'importance de la vie privée. Et on avait pointé le fait qu'il y avait pas mal de trucs complètement cons qui étaient dits là-dessus, qui étaient même totalement faux. Notamment sur cette question de l'anonymat sur Internet, puisque dans cette affaire, il n'y a pas d'anonymat. Il y a eu notamment Marc Ress, hein, qui est...
un des journalistes de Next Impact, ouais, et qu'on salue au
passage.
Le rédacteur
en chef de Next Impact, qui, sur Twitter, a sorti quelques citations qui montrent qu'un certain nombre de politiciens ou de journalistes sont vraiment très très attachés à essayer de casser la liberté d'expression au travers d'Internet et des réseaux sociaux, et que derrière, il y a vraiment un projet politique qui ne dit pas tout à fait son nom, qui est très autoritaire, et qui voudrait vraiment limiter cette capacité aux gens de partager des informations. Donc on peut vaguement le comprendre quand c'est des informations foireuses et ce genre de choses, que ça va contre la loi. Mais voilà, dans toutes les affaires récentes, cette question surgit.
Il faut savoir qu'il y a plusieurs lois qui existent déjà pour protéger la liberté d'expression ou pour punir des abus de liberté d'expression. Ça existe déjà. Donc la dernière loi qu'ils nous font contre la haine, elle est inutile puisque déjà réglementée avant. Et du coup, ils font passer des choses dedans qui n'ont rien à voir avec le débat qui pourrait être en cours.
Alors on peut rapidement dire que cette loi qui est en train d'être élaborée, elle est là pour contrôler ou essayer de contrôler les plateformes, notamment les GAFA, donc, et des trucs comme Twitter, Facebook, et pour s'assurer notamment que des contenus dits haineux soient effacés automatiquement en moins d'une heure. Donc le côté automatique est un peu particulier, original et inquiétant.
Alors, je précise quand même que la question de la haine sur l'Internet est un vrai sujet. Enfin, il y a effectivement des gens qui sont harcelés.
Et on a eu des cas, ouais, il n'y a pas si longtemps, une jeune fille qui s'appelle...
Alors, il y avait Mila, l'affaire Mila, hein, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. Et justement, c'était intéressant, puisque les premiers prémices de ces bruits dans les médias, c'était une tribune qui parlait des lâches. Donc, tous les gens qui sont extrêmement prompts à notamment condamner les islamistes et tout ça, et qui n'avaient absolument rien à dire sur cette affaire-là, parce que cette fille était personne avant que cette affaire ne prenne de l'ampleur, et personne n'a voulu se mouiller sur cette affaire-là.
Ce qui est tragique, c'est que l'État va faire passer cette loi-là, mais il se déresponsabilise. C'est pas lui qui va devoir gérer les problèmes, c'est les plateformes, les hébergeurs qui doivent faire des choses automatiques, des scripts, ainsi de suite, pour que ça ne se reproduise pas. Mais l'État, il fait rien.
Or, on peut imaginer, quand on est dans un espace public, et Internet devrait être considéré comme un espace public, bah, si on déconne dans un espace public, la sanction ultime, c'est que la police nous tombe dessus et nous sanctionne. Alors, c'est jamais parfait, mais normalement, c'est le boulot de l'État.
Et donc, cette menace qui plane peut peut-être réguler les infractions. Peut-être.
Enfin, voilà, en tout cas, ça fait... Les moyens existent. Et aujourd'hui, on constate que, même si ces lois existent, comme tu le disais, Magali, elles ne sont pas appliquées. Et quelqu'un de complètement standard qui serait victime de harcèlement aujourd'hui et qui vient dans son commissariat, il se passe à peu près rien. C'est juste aujourd'hui, effectivement, que l'État ne veut pas le faire et veut déléguer tout ça.
Chose amusante, à chaque fois, l'anonymat n'entre pas vraiment en jeu, parce que ce soit ces petits idiots, mais que ce soit aussi Piotr Pawlanski, celui qui a fait révéler les vidéos de Griveaux, bah, ils étaient connus ou ils se sont fait connaître au bout d'un moment.
Alors, ça se discute, parce que le Piotr en question, effectivement, là-dessus, il n'y a pas photo. En revanche, sur des forums, les gens sont derrière des pseudonymes, donc il y a la notion de pseudonymat. Il y a énormément de vidéos YouTube là, qui sont envoyées à des petits jeunes notamment, parce que ça parle de jeux vidéo, etc. C'est des boîtes de VPN donc, qui permettent de passer par Internet et sortir dans un autre pays et potentiellement de se payer un anonymat. La question, elle n'est pas complètement absurde. Elle est souvent utilisée complètement à tort. Dans les citations qui avaient été remontées par Marc Ress, hein, il y avait Eric Woerth qui dit sur France Info « Faut-il supprimer l'anonymat sur Internet ? Mais l'anonymat, c'est une horreur, affirme-t-il. On a besoin de beaucoup plus d'autorité sur les réseaux sociaux. » Donc voilà, ça c'est...
C'est un truc bien de droite. Voilà.
Oui, mais du coup, là, c'est même plus Internet, c'est juste les réseaux sociaux.
Parfois, ils ciblent hein, quand même. Effectivement, ils ne disent pas Internet ou le web. Souvent, il y a ce côté les plateformes, les réseaux sociaux.
Il faut regarder les stats de qui va où, mais les réseaux sociaux pèsent très très lourd sur l'usage Internet des gens quoi, et sur leur expression. Et après, donc, il y a d'autres choses qui ont été utilisées. Alors, on a bien sûr l'affaire Griveaux, hein, où il y a eu toutes les affaires, mais derrière, notamment, le virus en Chine.
Le coronavirus, le Covid-19. Hein.
Covid-19. Christophe Barbier, hein, qui est un journaliste, a dit « Les Chinois arrivent bien à bloquer tous les mots qui parlent de démocratie. Pourquoi on n'arrive pas à bloquer tous les mots qui franchissent la loi et tous les internautes qui, sous couvert d'anonymat, franchissent les bornes de la loi ?» Donc là, on voit une volonté de dire « On devrait avoir un système automatique » qui censurerait les paroles délictueuses, donc ce qui est interdit de dire.
Alors, petit détail, les Chinois n'y arrivent pas. Ils essayent de le faire, ils le font dans une large mesure, mais ils n'y arrivent pas. Et quand ils le font à mauvais escient. Là, on sait que pour le coronavirus, ils ont essayé de contrôler l'information au début, elle a finalement ressorti, et ça leur a fait un grand mal, c'est-à-dire que la crédibilité de l'État central a bien diminué, et ils ont retardé d'autant la prise de conscience de l'importance de ce virus, ça a créé plein de problèmes. Et je voudrais citer un autre cas, Tchernobyl, très bien contrôlé par l'État, qui a empêché l'information de sortir, mais en fait c'était contre-productif, et ça a fait beaucoup de mal, déjà qu'ils partaient de loin, mais ça n'a pas aidé.
Alors Christophe Barbier lui parle de la capacité de la Chine à bloquer l'usage démocratique et les libertés d'expression. En Chine, j'avais lu un article il y a quelques temps où le gouvernement avait interdit de faire des jeux de mots dans les titres d'articles parce que les censeurs eux-mêmes n'arrivaient pas à savoir s'il y avait un jeu de mots ou pas.
Ben oui, c'est une course. Ouais. Hein. C'est vraiment à chaque fois, on invente des termes et en plus, c'est des idéogrammes en chinois. Donc, parfois, les idéogrammes ressemblent à des termes qui peuvent être des critiques.
Alors, ce qui est complètement stupide dans ce que dit Christophe Barbier, c'est que lui, il dit bloquer des mots. Mais bloquer des mots, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que je peux utiliser le mot islamisme pour dénoncer l'islam. Où je peux utiliser le mot islamisme pour dire il y a de l'anti-islamiste et je devrais être libre de m'exprimer là-dessus. Donc le mot en lui-même n'a aucun sens, c'est le contexte. Or, les ordinateurs, les machines ne savent pas comprendre le contexte. Les intelligences artificielles, pourtant nous les vend, sont absolument stupides sur cette question de la compréhension.
Sans parler de l'humour et de l'ironie.
Oui, tout à fait.
On pourrait revenir à ce qui se faisait il y a quelques dizaines d'années, notamment à la télévision, c'est interdire des listes de mots. Il y avait les 7 mots d'insultes aux États-Unis qui étaient assez connus. Parce qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas le droit de les utiliser à la télé. C'était assez bien contrôlé.
qui est assez ridicule, parce que si on peut pas utiliser celle-là, autant en faire d'autres.
Eh ben, bien sûr, c'est ce qui se passe.
Surtout qu'en France, on a un vocabulaire qui est extrêmement riche, donc ça doit pas être très compliqué.
Oui, je pense que c'est en plus dans tous les pays, mais voilà. Autre citation stupide, donc c'est notre nouveau ministre de la Santé.
Ça commence bien.
Qui dit « La Chine a une capacité de réactivité, elle a pris ses responsabilités en prenant des mesures de confinement très rapidement. Je ne suis pas sûr qu'il serait possible de réaliser ça dans un pays où les réseaux sociaux seraient ouverts. » Donc il s'appelle Olivier Véran. Sur France Inter, il a dit ça.
C'est assez sidérant, et effectivement, je ne sais même plus comment réagir quand on entend quelque chose.
En fait, ça fait écho à ce que tu as dit tout à l'heure.
C'est que finalement, ça ne marche pas, ce genre de choses.
De fait, leur blocage a plutôt freiné les mesures qu'autre chose, donc c'est de la désinformation.
On le sait, en fait, que le dirigisme, d'une manière générale, ça peut avoir une efficacité localement, ponctuellement, mais qu'à terme, ça a toujours des grosses dérives en corruption, en contrôle de l'information, en élites qui vont profiter du système, parce qu'on peut être sûr que s'il y a un blocage pour vous empêcher de sortir de la ville, ça ne marchera peut-être pas pour les dirigeants du parti. Donc ce genre de concept-là même ne va pas fonctionner jusqu'au bout. Et on a besoin, au contraire, de lanceurs d'alerte, on a besoin de journalistes critiques qui sont capables d'aller au fond des histoires pour s'assurer que la démocratie, elle soit honnête. On a besoin de vérifier.
Et on a besoin de liberté d'expression, là, je veux dire. C'est totalement contraire aux droits de l'homme, ce qu'il est en train de dire.
Oui, c'est complètement surfait, les droits de l'homme. Regarde tous les problèmes qu'on a, c'est à cause des droits de l'homme. Il n'y a qu'un moment, il faut dépasser ça, non ?
Il faut être moderne, on va être moderne.
Voilà, la dernière citation que j'ai vue passer, c'est Alexandra Ben Saïd, qui est également sur France Inter, et qui a interviewé le patron de Facebook France. Et donc, le patron de Facebook France a récité son texte, en tout cas, tout le début, c'est vraiment de la récitation.
Il a eu un beau tunnel.
Il a eu un beau tunnel, on l'a laissé parler.
Elle lui pose une question, mais il y répond non seulement pas, mais en plus, il parle non-stop, quoi.
Voilà, mais elle, en tout cas, dans ses trucs, c'est sur l'affaire Griveaux, elle dit oui, mais vous avez certes pas hébergé les vidéos, mais on a pu avoir des liens pour cliquer dessus et les gilets jaunes ont partagé les liens.
Ouais, et là, elle, il répond dit, oui, mais s'il y a les liens, ça veut dire que c'est pas téléchargé sur notre plateforme, donc oui. Nous, on n'est pas en tort. Oui, mais il y a quand même les liens.
Et elle dit, notre problème, c'est les liens.
C'est
donc,
ça. Donc tu donnes une voie directe vers des vidéos qui sont, pas regardables.
Voilà,
hein, mais
c'est le truc, c'est attaquer les liens. Le lien d'une page à une autre page, c'est l'essence même du web.
Oui. C'est sa base.
Mais d'un autre côté, comment vous voulez qu'on contrôle des milliers de liens jour par jour, quoi ? C'est pas possible.
Avec des moteurs d'indexation brutaux qui vont être bien bourrins et qui vont tout bloquer.
Mais même si c'est très difficile à faire, ça veut dire que cette volonté, elle est là. Et c'est pas la première fois que quelqu'un dit, mais les liens sur Internet, c'est quand même insupportable. Ce qui veut dire qu'en fait, Internet, enfin en tout cas le web, est insupportable. Tout ça, ça nous fait un joli panorama de cette volonté. La loi Avia sur la haine sur Internet,
donc qui est en cours,
qui est en cours, manque pas mal le sujet. Pour moi, il y a trois solutions, enfin trois choses qui devraient être faites mieux. D'une part, il y a la question que l'État prenne ses responsabilités. Il y a plein d'autres domaines dans la vie où on a des missions de police qui sont là pour taper sur les gens qui font n'importe quoi. Il y aura toujours une proportion de connards dans la population, c'est inratable.
Et donc Twitter, Facebook deviendraient des espaces publics qui seraient gérés par
Twitter,
la loi publique.
Twitter, Facebook sont déjà des espaces publics.
Oui, mais qui seraient gérés par
le droit. Les gens peuvent s'exprimer, c'est déjà un espace public. Sauf que c'est pas géré en France parce que les serveurs sont en Californie.
Mais la loi fait que tu es quand même responsable de ce que tu as dit publiquement sur un Facebook ou un Twitter. Alors Facebook, on est censé pouvoir avoir des bouts en privé. Mais en tout cas, Twitter, c'est dans le principe complètement ouvert.
Et
l'affaire Mila a montré, en tout cas, ce que ça peut déclencher. Mais de fait, il faut effectivement qu'il y ait un pouvoir de police. Et on n'aura jamais tout le monde, mais il faut que quand il y ait des problèmes, au moins qu'il y ait un minimum de réaction.
Et c'est vrai que toucher au portefeuille des Français en leur donnant des amendes, ça a toujours marché.
Non, mais bon, voilà. En tout cas, ça pourrait être une étape. Alors ça, ce serait une première solution pour toi ?
Oui, en tout cas, moi, ça me paraît important. Ce ne sera jamais la solution ultime. Moi, je ne crois pas que les gens sont tous bien. Je veux dire, il y aura toujours une frange d'enfoirés. Et je pense qu'il y a une niche écologique pour les prédateurs, y compris dans la société, et que quoi qu'on fasse, il y en a, et que donc, du coup, il faut qu'on les régule d'une façon ou d'une autre.
Alors moi, personnellement, je préfère une deuxième solution, qui est de changer l'architecture des logiciels et des systèmes qui sont utilisés, notamment en les décentralisant. Avoir des petites communautés, comme Mastodon, où il y a des modérateurs locaux. Les modérateurs vont gérer ce qui va être diffusé sur quelques autres communautés autour. Et là, on a une gestion dont on sait qu'elle fonctionne aujourd'hui.
Alors moi, j'ai une troisième solution, mais c'est ma solution depuis des années, c'est l'éducation. Je veux dire, on a eu les réseaux sociaux qui nous sont arrivés comme ça, on n'a jamais été formés aux réseaux sociaux, on n'a aucune idée des conséquences, des responsabilités qu'on a sur les réseaux sociaux, et ça serait peut-être bien d'en informer les gens, surtout les jeunes, les plus jeunes qui arrivent sur les réseaux sociaux, qui n'ont jamais entendu parler de ça, à part leurs parents qui sont sur leur téléphone, et ils ont rien. Ils ont rien comme information, ils ont rien comme responsabilité, ils ont rien comme punition si tu veux, mais en tout cas, leur apprendre ce que c'est et jusqu'où ça peut aller.
Les conséquences, et effectivement, ce qu'ils postent aujourd'hui va les suivre peut-être toute leur vie, ça va être compliqué de s'en dépatouiller et savoir comment gérer bien l'agression sur Internet peut-être, parce que si on a une page Twitter qui va attirer tous les idiots, ça peut faire du mal. La formation, ça peut sûrement faire du bien.
Voilà, il faut sans doute, je pense, les trois en même temps.
Et arrêter de faire des lois inutiles.
Voilà, très bien. Eh bien, merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine
prochaine.
Salut.